6. Octave, en déposant l'épide, avait fait du triumvirat un doumvirat. L'empire se trouvait partagé entre lui et Antoine. Mais la domination de l'Orient ne satisfaisait pas plus l'orgueil d'Antoine que la domination de l'Occident ne suffisait à l'ambition d'Octave. Deux fois différée, la guerre civile demeurait inévitable. Dans son extrême prudence, Octave l'eût sans doute retardé encore. Dans sa folie, Antoine la précipita. Il méprisait Octave comme capitaine. Ses flatteurs, ses soldats, dont il était adoré, lui prédisaient la victoire. Cléopâtre, qui gardait le souvenir irrité de l'insolent accueil des Romains, brûlait de vengeance. Confiante dans l'épée d'Antoine, elle jurait déjà par la justice qu'elle rendrait bientôt au Capitole. Antoine commença par accabler Octave de récriminations et de sourdes menaces. Les clients d'Antoine, qui étaient nombreux à Rome, des amis, des émissaires envoyés d'Égypte, s'occupaient de faire valoir auprès du peuple ses griefs réels ou supposés. Octave, disait-il, a enlevé la Sicile à Sextus Pompée, sans en partager les dépouilles avec son collègue. Il ne lui a même pas rendu les 120 trirèmes prêtés pour cette guerre. Il a déposé l'épide et a gardé pour lui seul les provinces, les légions, les vaisseaux qui avaient été assignés à ce triumvir. Il a distribué à ses propres soldats presque toutes les terres d'Italie, sans rien réserver pour les vétérans d'Antoine. Tous les actes du gouvernement d'Octave étaient critiqués, incriminés. On rappelait qu'il écrasait l'Italie d'impôts. On l'accusait d'aspirer au souverain pouvoir. On allait jusqu'à dire que le véritable héritier de César était non pas Octave, son neveu, mais son propre fils, Césarion, et qu'un second testament du dictateur serait produit quelques jours. Au témoignage de Dion Cassius, Antoine, en reconnaissant formellement Césarion comme fils légitime de César, avait porté au comble l'inquiétude et la colère d'Octave. Cependant, Octave patientait. Ses armements n'étaient pas prêts et Antoine était encore populaire à Rome, où il avait conservé une nombreuse clientèle que protégeait sa femme, Octavie. Malgré l'offense qu'elle avait reçue d'Antoine, elle lui restait entièrement dévouée. En vain, quand elle était revenue de Grèce, Octave l'avait conjurée d'oublier son mari et de quitter sa demeure. Elle s'y était nettement refusée. Elle continuait à habiter cette maison fameuse, naguère propriété du grand Pompée, y élevant avec une égale tendresse les enfants qu'elle avait d'Antoine et ceux de sa première femme. Les clients d'Antoine, les amis qu'il envoyait d'Alexandrie, étaient assurés de trouver près d'Octavie secours et appui. Elle obtenait même pour eux les faveurs de son frère, si irrité qu'il fût. Elle ne cessait pas, du reste, de prendre devant lui la défense d'Antoine, excusant ses folies et ses fautes, et disant qu'il serait odieux que deux grands empereurs fissent s'entretuer les Romains, le premier pour venger des offenses personnelles, le second à cause de l'amour d'une étrangère. Octave, qui avait pour devise « On fait assez vite ce que l'on fait bien », sat celeriter fieri, quid fiat satis bene, semblait céder aux prières d'Octavie. Mais s'il ne se hâtait pas de déclarer la guerre, il la préparait lentement et y préparait l'opinion. Il exploitait surtout contre Antoine sa vie scandaleuse en Égypte, son asservissement à Cléopâtre. Antoine, faisait-il dire dans le Sénat, dans le peuple, dans l'armée, n'est plus un Romain. C'est un esclave de la reine d'Égypte, l'incestueuse fille des Lagides. Sa patrie, c'est Alexandrie, dont il veut faire la capitale de l'Empire. C'est Dieu, c'est Cnoufis, à la tête de Bélier. C'est Ra, au bec d'épervier. C'est l'aboyant Anubis, l'Atrantis Anubius. Ses conseillers, c'est l'eunuque Mardion. C'est Charmion, c'est Iras, coiffeuse de cette Cléopâtre, à qui il a promis de donner Rome. Ces racontages mirent au cœur des Romains un sentiment d'horreur que l'on retrouve, vivant encore, dans les vers des poètes du temps. « Parmi nos aigles, s'écrie Horace, le soleil voit, ô infamie, le vil drapeau d'une égyptienne. Des Romains vendus à une femme ne rougissent pas de porter les armes pour elle. Dans l'ivresse de sa fortune et la folie de ses espérances, ce monstre, monstrum illud, rêve la chute du Capitole et prépare avec un troupeau honteux d'esclaves et d'eunuques les funérailles de l'Empire. Ainsi, dit Properce, cette reine prostituée, Meretrix Regina, honte éternelle du sang de Philippe, veut contraindre le Tibre à souffrir les menaces du Nil et faire reculer devant le sistre aigu la trompette romaine. Les consuls élus en 32, Domitius, Aenobarbus et C. Sossius, tous deux partisans d'Antoine, tentèrent vainement de le sauver en démasquant Octave devant le Sénat. La majorité se déclara contre eux. Redoutant la colère de l'implacable justicier de Pérouse, ils s'expatrièrent avec un certain nombre de sénateurs. Ils ne purent d'abord rejoindre Antoine, qui se trouvait en Arménie, occupé à négocier le mariage de son très jeune fils Alexandre avec Jotape, fille du roi des Mèdes. Ils lui annoncèrent par une lettre qu'Octave pressait ses armements et que les hostilités étaient imminentes. Antoine, en bon capitaine, résolut pour devancer son ennemi de porter la guerre en Italie. Il envoya incontinent Canidius avec 16 légions sur le littoral de l'Asie mineure et lui-même se rendit à Éphèse, où tous ses alliés furent invités à diriger leur contingent. Cléopâtre arriva la première avec 200 vaisseaux de 3 à 10 rangs et un trésor de guerre de 20 000 talents, 100 millions de francs. Il eût mieux valu pour Antoine que cette flotte demeurât dans les eaux égyptiennes, et que cet argent ne fût pas retiré du trésor des Lagides, et que Cléopâtre restât à Alexandrie. L'adorable et fatale créature apporta dans le camp romain son fastueux désordre et son effréné besoin de plaisir. À Éphèse, où elle aborda, à Samos, où ils allèrent ensuite, on recommença les folies d'Alexandrie. L'arrivée continuelle des rois, des gouverneurs, des députations de cités, qui amenaient à Antoine des troupes et des navires, servait de prétexte aux fêtes somptueuses et aux représentations théâtrales. 1 000 000 de comédiens et de funambules avaient été convoqués. Alors que le monde entier, dit Plutarque, retentissait du bruit des armes et des gémissements des hommes, à Samos, on n'entendait que les rires, les flûtes et les cithares. Le temps passait vite dans ses plaisirs. Il fallait ne pas perdre une heure si l'on voulait prendre l'offensive. Jusque-là, les amis et les capitaines d'Antoine, Délius, Marcus Silanus, Titus, Plancus, subissant eux aussi la séduction de Cléopâtre, n'avaient rien tenté pour détacher leur chef de cette femme funeste. Maintenant, la grande partie allait se jouer, et dans cette partie, ils mettaient comme enjeu leur vie contre la domination du monde. Ils se rendirent auprès d'Antoine. Aenobarbus, le seul de tous les Antoniens, dit Velleius Paterculus, qui n'eut jamais salué Cléopâtre du nom de reine, porta la parole et déclara nettement qu'il fallait renvoyer l'Égyptienne à Alexandrie jusqu'à la fin de la guerre. Antoine le promit. Malheureusement pour lui, Cléopâtre a pris cette démarche. Moins que jamais, elle voulait laisser Antoine seul, en butte aux suprêmes appels d'Octavie, son heureuse rivale de naguère. Elle connaissait trop bien l'esprit hésitant et l'âme faible d'Antoine. Aurait-il la force de se refuser à une réconciliation, désirée au camp comme à Rome, qui consoliderait sa puissance menacée et assurerait la paix à l'Empire? Cléopâtre gagna Canidius, le plus renommé des capitaines de l'armée d'Orient, après Aenobarbus. Et à force de prières, de coquetterie, d'argent, dit-on, elle le persuada de parler pour elle. Il dit à Antoine qu'il n'était ni juste ni habile d'éloigner une souveraine qui fournissait, pour la guerre, des secours si considérables. Que l'on s'aliénerait ainsi les Égyptiens, dont les vaisseaux faisaient la principale force de la flotte. Il ajouta que Cléopâtre n'était inférieur pour le conseil à aucun des rois qui allaient combattre sous les ordres d'Antoine, elle qui avait longtemps gouverné seule un si grand empire, et qui, depuis qu'elle vivait avec lui, avait pris une nouvelle expérience des affaires. C'était parler contre la raison, mais c'était parler selon le cœur d'Antoine. Cléopâtre resta alarmée. Sur ces entrefaites, les amis qu'Antoine avait encore à Rome lui dépêchèrent un des leurs, Géminius, pour tenter une dernière fois de l'arracher à sa maîtresse. Géminius, après plusieurs jours, n'avait pu réussir à se trouver en tête-à-tête avec Antoine. Cléopâtre, qui soupçonnait le Romain d'être venu pour les intérêts d'Octavie, ne quittait pas son amant une minute. À la fin d'un souper, Antoine, ivre à moitié, somma Géminius de dire sur l'heure le motif de son voyage. « Les choses dont j'ai à te parler, répondit Géminius, irrité, ne peuvent pas se traiter après boire. Mais ce que je puis te dire aussi bien ivre qu'à jeun, c'est que tout irait bien si Cléopâtre retournait en Égypte. » Furieuse, la reine l'apostropha. « Tu as bien fait de parler avant que la torture t'y ait contraint. » Antoine n'était pas moins courroucé. Le lendemain, Géminius, ne se sentant pas en sûreté, se rembarqua pour l'Italie. La vindicative égyptienne en voulait aussi aux amis d'Antoine, qui s'étaient joints à Domitius Aenobarbus pour demander son départ. Sarcasme, offense, insulte, mauvais traitement, elle employa tout, si bien que Silanus, Délius, son ancien amant, dit-on, et Plancus, et Titus, tous deux personnages consulaires, abandonnèrent le parti d'Antoine. Autant pour se venger de leur ancien chef que pour se concilier leur nouveau maître, Plancus et Titus, de retour à Rome, révélèrent à Octave certaines clauses du testament d'Antoine, dont la divulgation devait achever de le perdre dans l'esprit du peuple. Antoine, reconnaissant Césarion comme fils de César, partageait l'Orient romain entre ses autres enfants et la reine d'Égypte, et ordonnait que même s'il mourait à Rome, son corps fut transporté à Alexandrie et remis à Cléopâtre. Les deux consulaires ajoutèrent qu'ils étaient certains de ces dispositions, puisque eux-mêmes, sur le désir d'Antoine, avaient lu ce testament, l'avaient scellé de leur cachet et l'avaient déposé au collège des Vestales. Octave demanda le testament. Les Vestales déclarèrent qu'elles ne lui remettraient pas, mais que s'il voulait le venir prendre lui-même, elle ne pourrait l'en empêcher. Octave n'eut aucun scrupule. Il prit le testament et en donna lecture devant le Sénat. Les pères conscrits, il faut le reconnaître, ne furent pas moins indignés de la violation du testament d'Antoine que du contenu même de cette pièce. Mais Octave avait l'excuse d'agir pour le bien public. Cet habile et patient politique touchait enfin à son but. Il provoqua un senatus consulte par lequel Antoine était déposé du consulat, puis le même jour, le 1er janvier 31, il fit déclarer la guerre, non pas à Antoine, mais à la reine d'Égypte. C'était un dernier ménagement envers l'opinion. Octave ne voulait point se donner l'odieux d'armer les Romains contre les Romains. Il savait qu'Antoine n'abandonnerait pas Cléopâtre. En menant ses légions au combat pour l'Égyptienne détestée, c'est lui qui prendrait la responsabilité de la guerre civile. Antoine et Cléopâtre passèrent à Athènes l'automne de 32 et une partie de l'hiver de 31. Tandis que leurs soldats épuisaient toutes les villes de la Grèce par d'énormes réquisitions et faisaient partout la presse pour compléter les équipages, arrachant les fils aux mères et les époux aux femmes, les deux amants menaient joyeuse vie. Toujours les spectacles, les jeux publics, les repas interminables, les orgies effrénées. Jalouse du souvenir qu'Octavie avait laissé à Athènes, où l'on parlait encore de sa beauté, Cléopâtre voulut l'effacer par son faste, ses flatteries et ses largesses au peuple. les Athéniens, peu ménagés des honneurs, déjà quelque peu surannés, dont ils pouvaient disposer, décidèrent que le droit de cité serait donné à Cléopâtre et qu'une statue lui serait érigée. Le décret lui fut apporté par des députés, au milieu desquels figurait Antoine, en qualité de citoyen d'Athènes. On en fit la lecture à la reine, après quoi on loua, en d'éloquents discours, ses vertus et ses mérites. La vanité de Cléopâtre était satisfaite, non pas sa haine. Elle exigea qu'Antoine répudiât Octavie, et que ce fût d'Athènes même, de cette ville où les époux avaient eu 3 ans de bonheur, qui lui fit tenir à Rome l'ordre de quitter sa maison. Octavie en sortit, vêtue de deuil, les yeux remplis de larmes, emmenant les enfants d'Antoine. La malheureuse l'aimait encore.